Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Ravi de vous retrouver après quelques semaines de repos. Un grand merci d'ailleurs à François Mazet qui était à ce micro tout au long du mois d'août pour commenter avec vous l'actualité. Dans 30 minutes, comme tous les matins, nous lancerons évidemment un débat. On parlera tout à l'heure de la polémique autour de la nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire. On en parle car la crédibilité de cette institution, vous le savez, est jugée cruciale en vue de la prochaine élection présidentielle. Elle se tiendra dans un peu plus d'un an. Une crédibilité remise en cause ces dernières années par l'opposition qui dénonçait une commission déséquilibrée à la faveur du pouvoir. Du coup, le président Ouattara a accepté de réformer l'institution. Seulement voilà, à 13 mois de la présidentielle, eh bien, l'opposition et une partie de la société civile jugent la réforme insuffisante. Elle refuse donc de participer à la nouvelle commission électorale. Cette polémique est-elle justifiée? On en parlera ensemble tout à l'heure. C'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Vous continuez évidemment à nous appeler au standard 33 9 693 693 70 et je vous attends également sur les réseaux sociaux, la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, on commence l'émission avec vos questions sur l'actualité. Des questions pour commencer sur le Brexit après le coup de poker du Premier ministre britannique Boris Johnson. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI, vous êtes à Cotonou au Bénin, on vous écoute.
Et d'abord, très bonne rentrée à toi.
Merci.
Boris Johnson a annoncé la suspension du Parlement britannique jusqu'au 14 octobre, ce qui a provoqué la colère de l'opposition. Mm. À travers cette décision, quelle est la stratégie de Boris Johnson? Et comment est-ce que l'opposition peut s'organiser pour contrer cette suspension?
Oui, c'est vrai que l'opposition dénonce un coup d'État. Une partie de l'opinion publique est vent debout. D'ailleurs, samedi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans une trentaine de villes à travers le pays. Bonjour Anissa El Jabri.
Bonjour.
Journaliste à la rédaction internationale de RFI, vous vous apprêtez à prendre l'Eurostar, à prendre le train direction Londres, où de nouvelles manifestations sont annoncées demain. Comment Boris Johnson justifie-t-il cette décision, pour le moins surprenante, à quelques semaines de la date du Brexit ?
En fait, ce que veut Boris Johnson, c'est mettre la pression sur tout le monde. Bon, d'abord sur le Parlement, c'est évident. Il leur dit aux parlementaires, vous n'avez jamais été capable de dégager une position. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce printemps, mais il y a eu plusieurs votes sur une dizaine de scénarios. Hein. Jamais un choix ne s'était dégagé. À chaque fois, c'était non. Alors, le Premier ministre dit un peu aux députés, mais surtout, il prend l'opinion à témoin. Moi, ce que je veux, c'est avoir les mains libres pour négocier et je reviendrai avec un accord qui ira à tout le monde, en fait. Alors, Boris Johnson joue la carte du peuple contre le Parlement. Vous vous souvenez peut-être, là aussi, Theresa May avait déjà utilisé des formules de ce type, mais Boris Johnson, avec cette suspension, eh bien, il passe aux actes. Et surtout, même avec ce ton très policé, il le montre, il ne serait prêt à reculer devant rien. Par exemple, ce sont des informations sous couvert de l'anonymat qui circulent dans la presse britannique. On a laissé fuiter que, au sein du cabinet du Premier ministre, on serait prêt à créer de nouveaux jours fériés pour empêcher, même après la mi-octobre, le Parlement de siéger. Alors, même si on ne sait pas très bien si ce sont des idées qui sont sérieusement envisagées ou pas, et ben ça plante un décor, c'est clair, celui d'un pouvoir exécutif qui est prêt à tout. D'où le choc, d'où ces manifestations dans cette très vieille démocratie parlementaire qui est la Grande-Bretagne. Alors, ça c'est pour la politique intérieure, mais en fait c'est aussi une manière de mettre la pression sur les Européens. En gros, c'est une manière de leur dire, vous avez vu, je suis prêt à tout, alors vous me donnez ce que je veux, ou bien nous irons à une sortie sans accord. En fait, le pari de Boris Johnson, c'est un petit peu celui des Brexiteurs depuis le début, hein, c'est de se dire que les Européens finiront par plier. Alors, Michel Barnier a encore fait passer le message ce week-end, et puis il l'a fait dans la presse britannique pour être sûr d'être bien compris. Il a dit ce qu'il dit depuis des mois, il est hors de question de renégocier sur le divorce.
Ouais, Boris Johnson déterminé, il veut garder la main, il veut à tout prix ne pas se retrouver dans la situation de Theresa May. Vous le disiez, les députés ont rejeté à trois reprises le projet de Brexit de Theresa May. Concrètement, Anissa El Jabri, quelle est la marge de manœuvre de l'opposition? Peut-elle à l'heure actuelle, contrer cette suspension du Parlement?
Alors, sur la suspension du Parlement, c'est très très compliqué. Il y a eu des militants nombreux qui ont saisi les tribunaux pour contester cette suspension. On va avoir notamment un résultat demain. Enfin, les spécialistes le disent déjà, normalement, ça passe pour Boris Johnson. On est sur une ligne très très fine sur l'esprit du droit britannique, mais ça passe. Alors, ce que veulent faire sur le fond les parlementaires, en tout cas certains d'entre eux, c'est d'essayer de faire passer une loi contre une sortie sans accord pour contrer de faire Boris Johnson. Pour ça, il faudrait convaincre les conservateurs modérés. Bon, sur le fond, on sait que le Parlement est contre, c'est pas là qu'est le plus gros enjeu. L'arme atomique dont on parle en Grande-Bretagne, un petit peu, c'est une motion de censure contre Boris Johnson. Pour ça, il faudrait que l'opposition arrive à convaincre les modérés du Parti conservateur. C'est quand même un parti où la loyauté est une valeur cardinale. Ça s'annonce compliqué. Et puis, en fait, certains élus se disent qu'après tout, jouons le jeu, débattons, attendons la suspension du Parlement, attendons cette date qui est très importante. Le 17 et 18 octobre, il y a un Conseil européen. On se dit qu'à ce moment-là, il y aura peut-être ou pas un nouvel accord entre Britanniques et les Européens, plutôt pas en tout cas si on entend les 27. Boris Johnson, à ce moment-là, reviendra devant le Parlement en leur disant bah voilà ce que j'ai à vous proposer. Et à ce moment-là, eh bien, les parlementaires se disent que ce sera peut-être le moment de le censurer, de tenter de déclencher des élections générales. Et vous savez quoi? Eh bien, à nouveau un report du Brexit.
Effectivement. Et donc, c'est un pari risqué pour Boris Johnson. On suivra, en tout cas, la journée de demain, rentrée parlementaire et des manifestations prévues un peu partout dans le pays. Merci à Anissa El Jabri. Bon voyage donc à Londres. 10h17 à Paris. Je remercie évidemment Gilles, qui nous appelait de Cotonou pour ses questions. On s'intéresse à la Colombie. Vous avez appris, comme tout le monde, l'annonce par l'ancien numéro 2 des FARC de vouloir reprendre la guérilla alors qu'un accord de paix avait été conclu il y a 3 ans exactement. Bonjour Aimé.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako, au Mali. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
D'accord. Bonjour Juan, bonjour à tous les auteurs de RFI. Malgré les accords de 2016, un des leaders des FARC vient d'annoncer la reprise des armes car selon eux, ils ont été trahis. Alors pourquoi a-t-il parlé de trahison? Aussi, le retour aux armes concerne-t-il l'ensemble des FARC démobilisés?
Ah, bonne question que vous posez, effectivement. On a contacté Pascal Drouot, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de l'association France-Amérique Latine-Caraïbes, on vous doit plusieurs ouvrages, notamment FARC, Confession d'un guérillero, publié aux éditions Choiseul. Alors effectivement, dans cette vidéo qui dure 32 minutes, Ivan Marquez, l'ancien numéro 2 des FARC, annonce la reprise de la guérilla et il dénonce, je le cite, la trahison par l'État des accords de paix. À quoi fait-il référence ?
Alors c'est vrai que on assiste donc à cette prise de position de Ivan Marquez, qui est d'ailleurs en rupture avec l'ancien numéro 1 des FARC, Timochenko, qui était son nom de guerre, Rodrigo Londoño, qui lui soutient, comme 90% des anciens membres des FARC, FARC guérilla, le processus de paix qui a été signé, vous l'avez rappelé, entre l'ancien président Juan Manuel Santos et donc le commandant des FARC à l'époque, Timochenko, Rodrigo Londoño. Ivan Marquez, c'est en effet, ça n'est pas n'importe qui, c'était le chef des négociations qui avait été mené à Cuba ces dernières années. Les mauvaises langues disent d'ailleurs que Timochenko, le chef des FARC, avait impliqué Ivan Marquez dans ce processus afin qu'il ne puisse pas justement s'en retirer. Donc ce qui se passe, c'est que dans une vidéo, et non pas dans le cadre d'une opération d'ailleurs militaire, mais dans une vidéo, Ivan Marquez se distingue donc de la position des FARC, qui sont devenus un parti politique ces dernières années, qui participent désormais des élections. Il y a le mois prochain des élections régionales, en Colombie, notamment bien avec une présentation des candidats des FARC.
Ce que vous dites, c'est que Ivan Marquez, finalement, ne parle pas au nom de tous les anciens guérilleros. Il parle en son propre nom et au nom peut-être d'une quinzaine, d'une vingtaine, d'une centaine d'anciens guérilleros.
Alors, il y a de ça, en effet, il parle au nom d'une minorité, en tout cas des anciens guérilleros, d'une part. D'autre part, il est en effet soutenu, il apparaît avec quelques anciens chefs des FARC, mais qui sont tous en délicatesse avec la justice. Et c'est bien là le problème. Le problème, c'est que, en effet, ces anciens leaders, je pense notamment à Jesús Santrich, qui apparaît avec Iván Márquez, sont poursuivis pour narcotrafic. Et c'est là la position du gouvernement que de dire ces hommes sont aujourd'hui des narcotrafiquants, sont tous en délicatesse avec la justice et c'est pourquoi ils assurent une rupture pour essayer de défendre des intérêts personnels.
Donc ça veut dire quoi, Pascal Drault? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de trahison comme l'affirme donc Iván Márquez?
Alors, écoutez, il y a bien évidemment la reprise d'une rhétorique révolutionnaire. Et bien évidemment, parler de trahison, d'oppression, répond bien évidemment à la recherche de bases sociales, d'une rhétorique qui rappelle l'époque de la Révolution. Il a même fait référence à Marquetalia, qui a été dans les années 60, en 1964, l'une des batailles fondatrices des FARC. Mais je crois justement que c'est un combat d'arrière-garde qui, aujourd'hui, ne trompe personne. Il s'agit d'une minorité.
Mais une minorité qui se chiffre à combien tout de même, Pascal Drault? On lit ici et là 2200, 2300, 2500 combattants prêts donc à reprendre les armes. Ce n'est pas rien.
Oui, ce n'est pas rien, mais je ne crois pas que ce soit ça la réalité. La majorité des guérilleros, alors là aussi les chiffres varient, on parle de 8000, en fait les chiffres officiels portent sur 13049 hommes qui ont été réintégrés, qui reçoivent aujourd'hui une indemnité, 90% du salaire minimum en Colombie, et qui participent de ce processus qui a été signé. Alors il est vrai que les choses ne sont pas simples, bien naturellement. Quand un ancien guérillero pendant 20 ans est dans la jungle, arme à la main, il est bien évident que rentrer dans la vie sociale, ce n'est pas facile. Ceci étant, la majorité se sont mariés, ont envie de créer une micro-entreprise et participer donc de la vie sociale. Ceci étant, en effet, le défi est grand, il est économique, il est psychologique, il est social, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec cette dissidence.
Pascal Drault, on me dit qu'Aimé a une dernière question à vous poser, alors rapidement Aimé.
Oui, quelles pourraient être les conséquences sécuritaires pour la Colombie si cette déclaration est suivie des faits?
Peut-on dire que le temps de la guerre est revenu en Colombie, Pascal Drault, en quelques mots?
Écoutez, en tout cas, le ton de la guerre, je ne crois pas, mais un durcissement en matière de sécurité, et merci à Aimé de poser cette question, certainement. Depuis 3 jours, il y a une vingtaine d'opérations militaires qui sont menées en Colombie. 12 anciens responsables, cadres des FARC, qui ont rejoint la dissidence, ont été abattus. Donc il y a certainement un ton qui s'est durci. Ton de la guerre, je ne crois pas.
Bien, merci d'avoir été concis, Pascal Drault, fondateur de l'association France-Amérique Latine-Caraïbes. Aimé, bonne journée à Bamako. Merci de nous écouter dans la capitale malienne où il est 8h24. Lamine, soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et bon retour de vacances.
Merci, vous m'avez manqué. On vous écoute, Lamine.
Eh bien, j'ai appris sur RFI que Sadao Dakaraba Diawara, premier président de la Gambie, décédé à l'âge de 95 ans, a reçu des hommages nationaux jeudi dernier.
Oui.
Alors, comment est-il parvenu à être le premier président de la Gambie en 1970, renversé par Yahya Jammeh en 1994? Quel rôle politique a joué Diawara à la suite de ce coup d'État?
Bonne question que vous posez. C'est l'occasion évidemment de revenir sur le parcours de celui qui fut le fondateur de la République de Gambie, le père de la nation gambienne. Caroline Roussy, bonjour.
Bonjour.
Enseignante, chercheuse à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste du Sénégal et de la Gambie. Après la mort de Daouda Diawara, c'est incontestablement un pan de l'histoire contemporaine de la Gambie qui disparaît. Il s'agit d'une grande perte pour le pays, a dit d'ailleurs l'actuel président gambien Adama Barrow. Comment Daouda Diawara est-il devenu le premier président de la République de Gambie?
Alors, en effet, il devient président de la Gambie en 1970, mais il faut savoir qu'en fait, il est sur la scène politique gambienne depuis 1960, date à laquelle il est nommé représentant du People's Progressive Party, donc qui est le parti du peuple progressiste. Et à cet effet, il devient ministre de l'éducation dans le gouvernement Pierre Sarr Ndiaye.
Enfin, rien ne disait qu'il se lancerait en politique. Il fait d'abord des études de vétérinaire. Il s'élance ensuite en politique, c'est ça?
Voilà, exactement. À partir de 1959, en fait, il est leader du People's Progressive Party, qui est en fait le parti du protectorat, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y a un double système juridique, à savoir que Bathurst, qui est aujourd'hui Banjul, était la colonie, et le reste, c'est l'arrière-pays qui était donc sous protectorat. Donc en 1960, il se lance dans l'arène politique. En 1962, il remporte les élections et à ce titre, devient chief gouverneur. En fait, il devient le premier ministre de la Gambie en 1962, poste auquel il restera en 1965. Et en 1970, donc 5 ans après l'indépendance qui a donc été effective à partir du 18 février 1965, il devient premier président de la Gambie suite à un changement constitutionnel, à savoir que la Gambie passe d'une monarchie parlementaire à un régime présidentiel. Voilà. Oui. Donc, vraiment, pendant ces 10 années, il occupe la scène politique gambienne. En 1965, même s'il garde donc ce poste de Premier ministre, en réalité, toutes les affaires
du pays sont gérées par lui. Il restera au pouvoir tout de même 30 ans. On peut parler de démocratie à ce moment-là en Gambie ou pas?
On peut parler de démocratie, oui, puisque de toute façon, il a remporté les élections face à son adversaire du UPI, donc l'United Party, qui était dirigé à l'époque par Pierre Sarr Ndiaye.
D'accord. Voilà. Bien. Il est renversé donc en 94, comme le rappelait Lamine, notre auditeur de Banjul. A-t-il joué ensuite un rôle politique?
Non, il n'a joué aucun rôle politique. Il faut savoir qu'en 1994, il a quand même subi l'usure du pouvoir. Il est là depuis plusieurs décennies à la tête du pays. En 1981, il faut savoir quand même qu'il a essuyé un premier coup d'État par Kukoi Sambasa Niang. Et à l'époque, en réalité, on est dans un contexte de guerre froide. Il y a des suspicions que ce soit un coup d'État fomenté par l'URSS ou par la Libye de Kadhafi, ce qui suscite une intervention de son voisin sénégalais qui lance une opération Fodeka 2. À cette issue, ils vont créer une confédération sénégambienne qui durera jusqu'en 1989. Pendant toute cette période, en réalité, les deux présidents ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas. Et en 1994, c'est une des raisons pour lesquelles Abdou Diouf ne souhaite pas intervenir. On est dans un contexte où aussi l'URSS s'est effondrée. Et bien évidemment, en fait, le coup d'État de Yahya Diame est considéré comme finalement un problème d'ordre intérieur. Il n'a plus de soutien en interne, pas plus à l'international.
Voilà pour ce parcours de Daouda Diawara, voire respecté sur le continent africain. Il a eu droit d'ailleurs à des obsèques solennelles et son corps repose désormais dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Lamine, a-t-on répondu à vos questions?
Merci, parfaitement bien.
Merci surtout à Caroline Roussy de nous avoir raconté en quelques minutes l'histoire contemporaine de la Gambie à travers le parcours donc du premier président gambien. On va marquer une pause et retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra dans 10 minutes juste après pour débattre ensemble autour de la polémique qui concerne la nouvelle commission électorale en Côte d'Ivoire, une grande partie de l'opposition ainsi que la société civile juge la réforme de la commission insuffisante. L'opposition refuse donc de participer à la nouvelle commission électorale et la question qui se pose aujourd'hui à moins d'un an, à un an de la présidentielle, c'est de savoir si on se dirige donc vers un scrutin tendu. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.